RCF.
Alors Bernard, aujourd'hui nous allons parler de la vie des étoiles, c'est-à-dire de leur évolution, juste depuis leur naissance jusqu'à leur maturité. Mais tout d'abord, où se forment les étoiles ?
Alors, toutes les observations montrent que les étoiles se forment à partir de la matière interstellaire.
Alors la matière interstellaire, c'est quoi au juste ?
Alors ce sont d'immenses complexes de nuages formés de gaz et de molécules diverses et surtout de poussière. On observe que là où ces nuages sont les plus denses, ils sont souvent associés à des étoiles jeunes. Une conclusion s'impose, les étoiles naissent de la fragmentation et de la condensation de ces nuages.
Alors pourquoi depuis que l'univers existe, toute la matière interstellaire ne s'est-elle pas déjà condensée en étoiles ?
Alors d'abord parce que la densité de ces nuages est incroyablement faible, quelques atomes par centimètre cube, et que les particules qui composent ces nuages ont une agitation, des mouvements qui s'opposent à leur attraction mutuelle. En outre, quand un nuage se condense, quand il se comprime, il s'échauffe. Et cet échauffement se traduit par une dilatation qui s'oppose à la condensation. Hein, c'est une des lois de la thermodynamique. Ce qui en fait étonne les astrophysiciens, ce n'est pas qu'il existe encore des nuages interstellaires, mais au contraire qu'il puisse exister des étoiles. Le processus de fragmentation hiérarchique qui va depuis les grands nuages de gaz de la Voie lactée jusqu'à des nuages de plus en plus petits et jusqu'aux étoiles, reste encore aujourd'hui mal élucidé. La chaleur interne des nuages, cette énergie qui tend à les disperser, doit être inférieure au potentiel de gravitation pour que les étoiles puissent y apparaître. Cette condition est appelée le critère de Jeans. En absorbant une partie de l'énergie calorifique des nuages, les molécules et les poussières jouent sans doute ici un rôle déterminant dans le processus.
Alors pourquoi un nuage donne-t-il naissance à une pluie d'étoiles de toutes les tailles, hein, et non pas à une seule étoile, mais colossale, énorme ?
Ah oui, là c'est une bonne question. Lorsqu'une étoile se forme, des quantités importantes de gaz chutent vers la surface de la future étoile. Cette chute provoque une émission intense de rayonnement ultraviolet et ce rayonnement a un puissant effet de souffle. Hein. Il chasse le gaz autour de l'étoile qui finit par creuser une grande cavité vide dans le nuage qui lui donne naissance.
Alors si je comprends bien, l'étoile naissance fait elle-même le vide autour d'elle.
Oui, et ça a pour effet de limiter la masse des étoiles à naître. Hein. C'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington. Elle explique pourquoi on rencontre très peu d'étoiles dont la masse dépasse 50 fois celle du Soleil.
Et pourtant, il en existe.
Oui, mais très peu. Il s'agit sans doute d'étoiles doubles ou multiples dont certaines composantes très proches l'une de l'autre ont fusionné. Hein. Ou bien d'autres étoiles proches qui s'échangent de la matière au cours de leur évolution et peuvent ainsi acquérir au cours du temps de la masse, un peu comme Pistol Star, l'étoile du pistolet dans la constellation du Sagittaire, hein, à 26 000 années-lumière de nous, très proche du centre de notre galaxie. C'est une super géante bleue qui brille autant que 5 millions de soleil et dont la masse est estimée à 150 fois la sienne.
Et ce sont les étoiles les plus grosses ?
Oui, à l'exception peut-être de certaines étoiles que l'on imagine avoir existé juste après le Big Bang. Pistol Star dépense en 6 secondes autant d'énergie que le soleil en consomme en un an.
Alors, a-t-on déjà vu naître une vraie étoile ?
Étoile. Une étoile, oui. À la fin de la contraction, la température a pour résultat de faire brusquement apparaître une étoile dans le ciel. Or, en 1956, une étoile nommée F.U. Orionis se mit brusquement à rayonner dans la belle nébuleuse Messier 42 d'Orion. Cet objet est considéré comme une proto-étoile au stade où la contraction s'accélère brusquement.
Donc c'est ça la vraie naissance de l'étoile.
Oui, même si au cœur de l'étoile, aucune réaction thermonucléaire ne s'est encore amorcée. La température de ces régions centrales augmente progressivement.
Comme le titre du film de George Cukor avec Judy Garland, A Star is Born, une étoile est née. Alors, quand s'amorcent les réactions thermonucléaires?
Alors, lorsque la température au centre de la future étoile atteint 1 million de degrés Kelvin, la combustion de l'hydrogène débute. Au cours de cette nouvelle phase, l'étoile va encore passer par des soubresauts, des périodes d'instabilité. Une étoile naissante, c'est d'abord une étoile variable. On nomme ces étoiles les étoiles T-Tauri, référence à l'étoile prototype de cette phase. Lorsque la température au centre atteint 10 millions de degrés Kelvin, la réaction proton-proton au cours de laquelle 4 noyaux d'hydrogène se transforment en un noyau d'hélium, commence. Elle va fournir à l'étoile toute son énergie.
Et l'étoile ne se contracte plus ?
Non. Elle a rejoint ce que les astrophysiciens appellent la séquence principale ou série principale, c'est-à-dire l'état où l'étoile va passer l'essentiel de son existence.
Alors, de la contraction initiale jusqu'à la séquence principale, ça a pris combien de temps ?
Alors, c'est variable. Ça dépend principalement de la masse initiale de l'étoile. Plus on est gros, plus ça va vite. Pour le Soleil, on estime que cette période a dû être de l'ordre de 40 millions d'années.
Oui, quand même, c'est pas rien.
Oui, mais pour une étoile 5 fois plus massive que le Soleil, cette durée est à peine égale à 1 million d'années, soit déjà 40 fois plus courte.
D'accord. Et pour une étoile alors très massive ?
Alors, pour une géante bleue très massive comme Rigel, la belle étoile d'Orion, dont la masse est de l'ordre de 30 fois celle du Soleil, cette période a dû être de 30 000 ans. La durée de la naissance d'une étoile dépend de la masse de gaz qui se contracte. Plus la proto-étoile est massive, plus rapide est sa contraction.
Alors, une fois les réactions nucléaires commencées, pourquoi les étoiles cessent-elles de se contracter ?
Eh bien, parce que la réaction de fusion thermonucléaire développe une température élevée, donc une pression gazeuse très forte, à laquelle s'ajoute la pression de radiation. Toutes ces radiations qui traversent l'étoile depuis son centre jusqu'à sa périphérie. Ces deux forces s'opposent à la gravité et maintiennent l'étoile en équilibre, en quelque sorte.
Alors, combien de temps une étoile reste-t-elle sur la séquence principale ?
Tant qu'il y a de l'hydrogène disponible dans les régions centrales de l'étoile.
D'accord. Et dans une étoile, il y a beaucoup d'hydrogène ?
Ah oui, c'est même le constituant principal, essentiel de toute étoile. Beaucoup d'étoiles ont plus de 70% de leur masse constituée de noyaux d'hydrogène. C'est la raison pour laquelle cette phase de la vie de l'étoile va être la plus longue et aussi la raison pour laquelle plus des deux tiers des étoiles que peut observer dans le ciel sont observées à ce stade de leur existence. Mais ici encore, tout va dépendre de la masse de l'étoile. Pour le Soleil, la période sur la séquence principale a une durée estimée de l'ordre de 10 milliards d'années.
Oui, mais le Soleil a déjà passé 5 milliards d'années sur la séquence principale.
Ah oui, mais oui, c'est vrai. Donc il lui reste 5 milliards d'années.
D'accord.
Mais on observe que pour les étoiles de la séquence principale, il existe une relation entre la masse et la luminosité.
Alors plus on est gros, plus on brille fort.
Exactement. Or, la luminosité d'une étoile dépend directement du rythme avec lequel s'effectuent les réactions nucléaires au cœur de l'étoile. Plus une étoile est massive, plus elle brûle ses réserves d'hydrogène rapidement. Plus la masse croît, plus la durée de vie de l'étoile sur la séquence principale est courte, plus elle diminue rapidement. Ainsi, une étoile de 15 fois la masse du Soleil y restera seulement 10 millions d'années.
D'accord. Alors du coup, les minuscules étoiles naines rouges, sont-elles celles qui restent le plus longtemps ?
Ah oui, on peut même dire qu'elles y restent éternellement.
Toutes les étoiles de la séquence principale transforment leur hydrogène en hélium, mais à un rythme différent, c'est ça ?
Oui, mais toutes n'utilisent pas le même type de réaction. Les étoiles les plus massives, celles dont la température centrale est la plus élevée, utilisent un cycle nécessitant la présence de carbone. C'est ce qu'on appelle le cycle de Bethe, du nom de Hans Bethe, ou encore cycle carbone-azote-oxygène. Les calculs montrent que pour une étoile de 100 fois la masse du Soleil, la température dans les régions internes serait si élevée que la pression de radiation l'emporterait sur la pression gazeuse de l'étoile. Une telle étoile serait instable et perdrait une grande partie de sa masse sous forme de vent stellaire. C'est probablement aussi pourquoi les étoiles de 70 masses solaires semblent constituer la limite supérieure de la séquence principale. La réaction proton-proton, celle qui entretient principalement le Soleil, est beaucoup plus lente que le cycle de Bethe. C'est pourquoi le Soleil restera beaucoup plus longtemps sur la séquence principale que les étoiles très massives.
Mmh. Alors tant mieux pour nous. Hein.
Oui.
Alors nous avons déjà parlé dans une de nos émissions, pardon, des minuscules étoiles naines brunes. Elles ne rejoignent jamais la séquence principale, c'est bien ça?
Alors c'est ça, Joël. Leur masse étant inférieure à 7% de celle du Soleil, ça leur interdit de connaître en leur sein la réaction de fusion d'hydrogène en hélium qui permet à une étoile de briller. Aussi, sous l'effet de la gravité, ces étoiles se contractent lentement en émettant un maigre rayonnement visible et infrarouge et finissent par ressembler finalement à des planètes géantes gazeuses de très forte masse.
Et est-ce que la composition initiale de la matière de l'étoile joue un rôle dans son évolution?
Alors oui, pour simplifier, là nous n'avons abordé que le problème de l'influence de la masse. Mais tu as raison. Tous les nuages de matière interstellaire ne sont pas de même composition chimique. La différence tient surtout à la proportion d'hydrogène. Le Soleil appartient à ce que l'on appelle les étoiles de population 1. Sa composition est d'environ 70% d'hydrogène, 27% d'hélium et 3% d'éléments autres. Mais on observe dans notre galaxie des étoiles beaucoup plus anciennes. Elles forment le halo galactique et une partie d'entre elles sont regroupées pour former les fameux beaux amas célestes stellaires en forme d'oursin, tu sais, sphériques, là, les amas globulaires. Eh bien, ces vieilles étoiles forment les étoiles de population 2.
Tiens, c'est curieux, population 2 alors qu'elles sont arrivées les premières.
Oui, c'est vrai, c'est pour des raisons historiques.
D'accord.
Pour ces étoiles, la proportion d'hydrogène peut atteindre 90% et les éléments lourds, moins de 1 millième. Deux étoiles de masse identique, mais de population stellaire différente, brûleront leur hydrogène à des rythmes différents et connaîtront des températures internes différentes et donc aussi des luminosités légèrement différentes.
Alors que va-t-il se passer lorsque l'hydrogène va commencer à s'épuiser dans les régions internes des étoiles de la séquence principale?
Eh bien, nos étoiles moyennes comme le Soleil ou un petit peu plus massives que lui vont évoluer et connaître un nouvel épisode de leur existence. Mais attention, le destin final des étoiles, ici encore, sera conditionné, il sera très différent selon la masse de l'étoile. Selon qu'on en sera une géante bleue comme Rigel ou Deneb, ou bien une étoile géante blanche ou bleutée plus grosse que le Soleil comme Vega, Sirius ou Altair, ou bien encore une étoile jaune comme Procyon ou comme le Soleil, ce n'est pas la même aventure qui nous attend. Mais ça, Joël, nous le verrons dans une autre émission.
Alors, que deviendront nos étoiles? Survivront-elles? Vous le saurez en écoutant Juste Ciel. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard. Et puis si le Soleil existe encore, à la prochaine fois.
À la prochaine fois, Joël.